radio panique.
Pandémique.
Rassure l'auditeur.
Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
Radio pandémique tous ensemble.
On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin dessiner un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité.
Comment les gouvernements pourraient réagir,
comment les personnes comme vous et moi seraient infectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
C'est Radio Pandémique, avec un K.
Ah oui, Radio Pandémique,
ouais.
J'aime
bien. Je panique, je pandémique, avec des vélos cargo, deux cagettes de salade, des carottes, des pommes, et ça part vers des cuisines pour être préparé, pour être mangé ce soir. C'est de la récup, et la destination finale c'est des sans-papiers ou des réfugiés, ou les deux.
Et des SDF aussi, cuisine solidaire.
Ouais. Cool.
Solidaire, la porte du lit, l'armée du salut.
Et donc on est sur le trottoir en train de répartir les cagettes.
Les infirmiers, les docteurs, les virologues, les nettoyeurs, les épiciers, les professeurs et plein d'autres. Ils bossent tous nuit et jour. Ensemble.
Cagette de salade, cagette de concombre. Il y a des fruits aussi, des oranges, du pamplemousse, des patates, des poivrons, des brocolis, des tomates.
Na, na, na,
na, qu'est-ce que c'est déjà ça?
Oui.
Fenouil, oui. J'ai un peu honte de ne pas savoir ça. Et ça, c'est du chourave.
Non, c'est du choucaille.
Choucaille. Et ça va être reproduit cette bon, occasion, ça, cette opération.
Donc moi c'est Robin Bronlet, je suis avocat au cabinet Progress Lawyers Network à Bruxelles.
Est-ce que aujourd'hui les centres fermés ont été ouverts? Est-ce que les personnes qui étaient enfermées en centre fermé ont été libérées?
Donc une partie des personnes qui étaient détenues en centre fermé ont été libérées, mais pas toutes. D'après l'Office des étrangers, donc eux disent qu'ils ont libéré 300 personnes, et ils disent aussi que le taux d'occupation des centres, suite à ces libérations, est descendu à 50%. Mais donc ça, c'est les chiffres de l'Office des étrangers. Nous, on n'a pas de... j'ai juste accès à des dossiers individuels, donc pas de moyen de voir... dans la globalité, combien de personnes effectivement se trouvent dans les centres fermés. Mais ouais, voilà les chiffres de l'office.
Et sur quels critères les personnes ont été libérées ou non?
On a juste les infos de l'office qui ont l'air de dire que c'est selon un critère de vulnérabilité. On n'a pas vraiment de moyen de le vérifier.
Donc ce sont des personnes vulnérables, donc suivant leur âge.
Vulnérables qui auraient été libérées, mais bon, en même temps, j'ai entendu que par exemple, il y avait toujours un monsieur de plus de 70 ans qui se trouvait détenu à Votem, donc clairement, alors que des personnes plus jeunes ont été libérées, donc ça ne semble pas être totalement respecté comme critère.
Et est-ce que tu peux resituer un peu le contexte légal qui en fait oblige les centres fermés à libérer les personnes détenues?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que la base légale de la détention en centre fermé, c'est l'expulsion. C'est-à-dire que quand on est en centre fermé, c'est pas comme en prison où on est détenu par rapport à une infraction qu'on a commise pour une peine d'un certain nombre de mois ou d'années. En centre fermé, la détention est uniquement permise par la loi pendant le temps le plus court possible qui permet d'organiser l'expulsion du territoire de la personne vers son pays d'origine. Alors ici, on a de nombreux pays ont fermé leurs frontières et donc de nombreux vols été annulés. Ici, enfin, les premiers qui ont annoncé ça, c'était le Maroc, la Turquie. Je sais que depuis, maintenant, de nombreux pays ont annoncé qu'ils fermaient leur espace aérien et leurs frontières, avec pour résultat que de nombreuses personnes ne peuvent maintenant plus être expulsées vers leur pays d'origine, ou en tout cas pas dans un délai raisonnable, puisqu'on sait que cette suspension des vols, elle est annoncée pour au minimum un mois et peut-être plus. Et donc, il n'y a plus de base légale pour la détention, vu qu'une expulsion dans un délai raisonnable n'est plus possible. Donc ça, c'est le premier argument qui doit justifier la libération de toutes les personnes pour qui une expulsion n'est pas possible rapidement. Le deuxième argument, c'est les mesures de confinement, les mesures qui sont prises pour éviter la propagation, et le fait que ces mesures sont inapplicables à des personnes qui sont détenues nombreuses dans les centres fermés. Donc nous, on pense pas que ça soit possible de maintenir quelqu'un en détention en respectant les mesures de confinement. Donc il faut aussi libérer les personnes pour cette raison-là.
Et une fois que ces personnes sont libérées, donc qu'est-ce qu'il advient ? Est-ce qu'elles peuvent faire une demande d'asile ? Est-ce qu'elles peuvent, qu'est-ce qu'elles doivent, où est-ce qu'elles vont ? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes actuellement ?
Les personnes qui sont en centre fermé, ce qui est souvent, c'est souvent quelque chose qui est mal compris, mais en fait, ce sont des gens, ils sont pas sans abri pour la plupart. Hein. Ce sont beaucoup des gens qui étaient en Belgique parfois depuis de nombreuses années. Souvent, ce sont des gens qui ont de la famille en Belgique, qui ont parfois un partenaire, une partenaire, des enfants ici. Et donc, ces personnes-là, elles sont tout simplement demandeuses de pouvoir repartir dans leur famille, quoi. Après, pour le reste, il y a aussi une autre revendication en plus de l'ouverture des centres fermés, qui est de dire que à partir du moment où toute une série de personnes ne peuvent pas quitter le territoire, ces personnes-là doivent être régularisées aussi pour cette raison-là. Donc, c'est-à-dire que ça sert à rien d'être en train de donner un ordre, de libérer la personne du centre fermé avec un ordre de quitter le territoire qui lui dit tu dois partir dans ton pays ou tu dois en application du règlement Dublin partir en Italie, alors que on sait bien que c'est impossible parce que les États ont fermé leurs frontières. Mmh. Et donc il faut pouvoir, vu que ces personnes ne peuvent pas quitter le territoire, et qu'elles peuvent pas exécuter l'ordre de quitter le territoire qui leur est donné, il faut pouvoir leur permettre de vivre dignement en Belgique, vu qu'elles sont coincées en Belgique, et donc les régulariser tout simplement leur donner des papiers. Oui.
Et si aucune régularisation n'est faite, c'est que en fait l'État accepte, indirectement, de laisser des gens illégalement sur le territoire pendant X temps, quoi.
Je veux dire, c'est le cas. Hein. C'est le cas depuis que la loi sur les étrangers a été prise en 1980, c'est que l'État accepte que, à partir du moment où on met des conditions extrêmement restrictives pour l'acquisition d'un titre de séjour, l'État accepte que des milliers de personnes sont sans titre de séjour et continuent à vivre en Belgique. Ça, on le sait bien. Enfin, la capacité des centres fermés, c'est quelques centaines, milliers de personnes. Le nombre de personnes qui n'ont pas de papier en Belgique, c'est entre 100 000 et 200 000. Donc, on sait bien, de toute façon, que quoi qu'il arrive, les règles sont ainsi faites que il y a plusieurs milliers de personnes qui sont contraintes de continuer à vivre en Belgique et à travailler en Belgique sans avoir de papier, et donc à être exploitées dans des conditions qui permettent à tout certain pan de l'économie de continuer à fonctionner.
Donc j'aurais deux questions encore. Donc la première, c'est donc quelle est la réaction de l'administration, enfin quel message l'administration fait passer par rapport à cette situation et qui vous permettrait à vous en tant qu'avocat de faire votre travail et de mettre en place ce qui doit être mis, les procédures qui doivent être mises en place pour justement régulariser ces gens. Et de votre côté, en fait, de quoi est fait le travail aujourd'hui en période de confinement avec vos clients?
Donc au niveau de la réaction de l'administration, il y a eu cette semaine une lettre ouverte à la première ministre qui a été signée par une centaine d'avocats, y compris des représentants de l'ordre des avocats, différents bâtonniers, etc., qui présentent les arguments que je viens de vous résumer par rapport au fait que les expulsions sont impossibles et les personnes doivent être libérées pour éviter de risquer une contamination dans les centres. Voilà, la réaction de l'Office étranger, c'était d'annoncer que la moitié des personnes avaient été libérées afin de permettre de respecter les règles de distanciation. Maintenant, ils disent ensuite, bon, pour le reste, ça appartiendrait aux politiques de prendre une décision, d'effectivement vider les centres. Nous, évidemment, notre position, c'est que, bon, quand on connaît les centres fermés, on sait que c'est souvent des chambres de 8 personnes ou 10 personnes. Donc 50% d'occupation, ça fait 4 personnes par chambre ou 5 personnes par chambre. C'est clairement pas respecter les mesures de distanciation. Donc nous, on continue à demander que les centres soient complètement vidés et on espère ce week-end une décision politique dans ce sens-là. Alors, en parallèle, nous, évidemment, ce qu'on fait en tant qu'avocat, c'est de demander la libération de chacun de nos clients individuellement. Et donc ça, bon, toutes les audiences des cours et tribunaux sont suspendues en règle générale, sauf évidemment les audiences qui concernent les audiences urgentes qui concernent la détention. Et donc ici, dans les semaines qui viennent, il va y avoir plusieurs de décisions de justice qui, on espère, vont libérer les personnes individuellement, quoi. Donc il y en a déjà eu la semaine passée. Il y a la cour d'appel de Liège qui a libéré un détenu marocain en disant, ben, on peut pas le garder tout simplement parce que l'expulsion vers le Maroc est impossible. Donc nous, on espère avoir d'autres décisions dans ce sens-là. Mais évidemment, ça demande d'avoir un avocat qui est pas malade et qui est prêt à se déplacer, aller voir son client, lui faire signer les documents nécessaires, se rendre au tribunal, et parfois c'est le tribunal du lieu d'arrestation du client. Donc parfois, ça peut être à l'autre bout de la Belgique. Donc ça, ce sont des démarches qui mettent énormément de gens en danger, qui sont extrêmement compliqués, qui vont pas pouvoir être faites pour tous les détenus, et donc ça va pas permettre de résoudre toute la situation. Il faut une décision politique qui libère tout le monde pour éviter que chacun doit faire une procédure individuelle.
on est le 21 mars.
Nous sommes à Bruxelles.
On est au quatrième jour de confinement en Belgique.
Et j'ai rendez-vous avec Clémence.
J'arrive au Parc Royal.
Coucou.
Ça va?
Ouais, ça va, et toi?
Bah ouais.
Ouais.
On peut plus se retrouver à qu'à deux personnes dans la rue.
C'est-à-dire qu'on peut encore se promener deux par deux à une distance de 1,5 mètre entre nous. Mais là, t'es pas à 1,5 mètre, là. Là, t'es à quoi? 1 mètre. Donc, on est en situation illégale.
Ah, il y a des flics.
Donc, on va se séparer. Enfin, faire semblant d'être séparés. Ouais. Voilà, avec de l'écart entre nous avant de croiser la police. Et voilà, c'est passé sans problème.
Bon.
On essaye de se voir demain ou quoi? Ou les jours qui viennent?
Eh ben ouais, on se voit au parc.
On continue à vivre, hein. Même avec les corona. Vive la vie. Même avec les corona. On continue à vivre.
Nostalgique du troisième Reich. Plein de monde autour de moi dans le bois de la Cambre.
Les messages des forces de l'ordre qui indiquent qu'on peut pas rester assis
sur un banc ou sur la pelouse. Il faut bouger.
Une ambiance très silencieuse.
La pédale tout autour de moi. En soleil.
Bonjour.
En l'air.
Je suis bénévole chez Radio Panique.
Oui.
Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur ce qui se passe?
Bonjour.
Bonjour. Je suis bénévole chez Radio Panique, c'est une radio associative à Saint-Jos. Et on fait des émissions spéciales sur ce qui se passe en ce moment, le contexte. Est-ce que pour vous c'est beaucoup plus difficile ou...
Vous pouvez pas en tout cas sur contrôle. Hein,
ouais.
Il faut juste un peu appeler au bon sens des gens. Ils peuvent encore marcher, mais ils peuvent pas attroper avec beaucoup de gens autour. Ils ne peuvent pas être sur les bancs avec des dizaines. Ça, c'est un peu le sens logique. Je pense que les consignes sont claires pour tout le monde. Mais il faut de temps en temps rappeler certaines personnes qui ont peut-être oublié ou qui sont peut-être un peu plus consolantes que les autres. Hein.
Ok. Super. Bon, en tout cas, il fait beau et c'est vrai que les gens ont envie de prendre l'air et d'aller dans le parc.
Je comprends, mais voilà, il y a quand même un virus qui est en route.
Oui, voilà, c'est difficile.
On peut encore bouger, on peut encore sortir, mais voilà, avec modération et avec prudence, on va dire. Donc, voilà, sans le dramatiser, mais il faut quand même pas prendre les risques.
Je peux vous demander de tenir une distance d'un mètre 50 entre vous, s'il vous plaît.
Ok. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bon après-midi.
Essayez. Merci.
Merci, au revoir.
Merci, bonne journée.
Donc vous avez compris, hein, c'est un équilibre entre sens commun et injonction et étrange. Bonne continuation aux auditrices.
Les masques faits maison sont très utiles pour les personnes qui sont malades et isolées à la maison. Les masques professionnels peuvent être gardés pour les professionnels de la santé. Ils prennent soin de leurs patients jour après jour et sont essentiels pour la santé de toute la population. Vous en avez en réserve à la maison? Amenez-les à l'hôpital le plus proche. Pour les personnes qui sont isolées. S'ils portent leur masque à la maison, ils diminuent le risque de contaminer quelqu'un de leur entourage. Même si l'on porte un masque, il est toujours important de suivre les règles générales. Gardez suffisamment de distance, lavez-vous les mains fréquemment Évitez tout contact avec une autre personne si vous êtes malade. Fabriquez vos propres masques buccaux. Tenez compte de ces consignes. Différentes couches de tissu offrent une meilleure protection qu'une seule couche. Utiliser des matériaux filtrants tels que le sac d'un aspirateur est une bonne idée. Les essuies de cuisine offrent une meilleure protection que certains tissus en coton. La soie et les tissus synthétiques protègent moins bien. Des couches de tissu très épaisses rendent la respiration difficile et sont désagréables à porter longtemps. Évitez les masques épais qui vous font transpirer davantage. Vous démangent car ils vous feront toucher inconsciemment votre visage. Il est essentiel de laver régulièrement ces masques buccaux à la machine à haute température. Assurez-vous que le masque buccal est bien ajusté autour du nez et du menton. Vous devez respirer, tant par la bouche que par le nez.
Bonjour.
Bonjour. Donc, je me présente. Donc, oui. Je suis psychologue au centre de prévention des suicides. Et donc, je travaille au centre de prévention des suicides. Il y a plusieurs services au centre de prévention des suicides. Je travaille essentiellement, moi, dans ce qu'on appelle la cellule d'intervention psychologique de crise. Donc, où je reçois ainsi qu'avec d'autres collègues, des personnes en crise suicidaire, donc en entretien. Et je travaille également avec des personnes endeuillées par suicide. Mais dans les autres services du centre de prévention du suicide, le plus connu, c'est la ligne téléphonique de crise, qui est le 0800-321-23, où des bénévoles formés par des psychologues répondent 24h/24, 7 jours sur 7, à des personnes qui peuvent se trouver en détresse, en crise suicidaire, en tout cas en souffrance importante.
Dans le contexte dans lequel on est actuellement, est-ce que vous constatez un changement?
Alors certainement, aussi bien au niveau de la ligne téléphonique qu'au niveau des entretiens, parce que pour l'instant on a par vidéoconférence puisque le confinement appelle à ce qu'il n'y ait plus trop de contact de visu avec les gens, mais on constate effectivement que le confinement va agir comme un révélateur, agir comme un stress test, et un révélateur en fait de choses qui pouvaient être à bas bruit, les personnes ont... La revue est structurée par toute une série d'activités, le fait de se lever pour aller au travail ou de voir des gens à l'extérieur. Enfin, on ne se rend pas toujours compte quand on est dans une vie active combien le quotidien en fait structure une journée. Et à partir du moment où ce quotidien est déstructuré, les gens se retrouvent chez eux, coupés de toute une série d'éléments qui aménageaient leur vie, ça va laisser apparaître des choses qui pouvaient être dormantes ou, comme je le disais, à bas bruit. Donc, effectivement, encore aujourd'hui, je recevais par vidéoconférence une personne qui était en danger de suicide, et donc elle me disait combien le fait d'avoir moins d'activité lui permettait de moins se changer les idées, et donc elle ruminait un peu plus autour de sa souffrance, et le processus du deuil était un peu plus marqué, je dirais, du fait qu'elle se retrouvait beaucoup face à elle-même et avec moins d'occasion d'être en contact avec l'extérieur. Donc certainement, je pense que c'est une période qui n'est pas facile. On voit bien qu'il y a, en France, mais je pense que ce sera le cas en Belgique également, le confinement va amener à être également révélateur de tensions, qui peuvent être des tensions intrafamiliales, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans les couples. On parle pas mal de burn-out parental aussi ces derniers temps. Je pense qu'il y a une initiative de l'UCL qui a créé, je pense que c'est ouvert aujourd'hui, une ligne gratuite SOS parents pour justement aider les parents qui se trouvent confrontés à non seulement devoir assumer lorsqu'ils ont un travail en télétravail chez eux, plus de veiller aux enfants et en plus éventuellement les aider à faire leurs devoirs et ce qu'on leur demande de faire chez eux à la maison. Donc, on voit bien que c'est une période particulière, génératrice d'anxiété aussi. Il y a certains qu'on touche quand même à la question de la mort, à travers le coronavirus. On voit bien que dans certains pays plus touchés que d'autres, c'est très à l'avant-plan. Donc même si ici en Belgique, pour l'instant, heureusement, on a encore un nombre de décès qui reste relatif par rapport à ce qu'on peut voir en Italie ou en Espagne, on voit quand même que ce sont des questions fondamentales qui sont posées. Donc forcément, ça a une répercussion sur la santé mentale et l'équilibre des personnes. Donc s'il y a des déséquilibres qui sont existants, mais qui sont contenus, je dirais, par toute une série de, comme je disais, d'activités du quotidien qui structurent la vie, tout ça va être révélé d'autant plus fort dans les moments de confinement.
Ici, on est en confinement jusqu'au 5 avril, mais la période peut être prolongée. Oui. En cas de prolongement, est-ce que vous pensez qu'il y a des risques de problèmes de santé mentale par rapport à ce dont vous parliez juste précédemment, qui s'accroissent en fait?
Mais il est certain que plus le temps augmente, plus le risque que ces problèmes-là se manifestent de façon plus aiguë grandissent. Maintenant, il peut y avoir un phénomène d'habituation qui va amener les personnes à pouvoir petit à petit restructurer le quotidien autrement, réaménager autrement, qui rendra d'ailleurs peut-être comme on dit difficile le retour à la vie active hors confinement. C'est possible que l'être humain est un être qui s'adapte quand même différentes situations qu'ils rencontrent. Même quand il y a des problèmes de santé mentale, l'adaptation peut être réduite. Donc ça, évidemment, il faut en tenir compte. Donc, mais ça veut dire que je crois qu'il faut voir, que ce soit de façon professionnelle ou de façon privée, on voit combien le confinement amène les êtres à se rendre compte du fait que nous sommes des êtres, on parle d'être humain comme un animal relationnel, j'aime pas tellement le mot animal, j'en parle plutôt par des êtres relationnels. C'est évident que si la vie nous oblige à être plus éloignés des autres, on voit bien combien maintenant les réseaux sociaux, que ce soit les vidéoconférences, les appels téléphoniques, les réseaux sociaux, fonctionnent beaucoup plus, les gens ont plus de temps d'une part. Et je pense que c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de besoin, de tisser des liens. Donc on voit par ailleurs qu'ils peuvent être plus qualitatifs, on voit quand même une certaine solidarité apparaître à travers dans les liens interpersonnels qui est touchante, et qu'on voit que dans l'épreuve, des qualités qui peuvent être moins à l'avant-plan en temps normal peuvent apparaître entre les générations. On voit des personnes qui spontanément offrent leur service à des personnes plus âgées pour faire leurs courses, pour avoir des contacts téléphoniques avec eux s'ils sont isolés. Je pense qu'il va falloir qu'on repense notre façon de fonctionner durant le confinement, et je l'espère après, parce que ce qui se passe maintenant donne à penser, donne à réfléchir sur nos manières de fonctionner, hein, entre autres dans une course permanente qui nous fait des fois négliger les choses essentielles. Et donc oui, je dirais qu'il faut être attentif de toute façon dès à présent par rapport au confinement et d'autant plus s'il perdure. Et donc peut-être pour l'évoquer par rapport à des personnes qui sont plus isolées, à des personnes qui sont célibataires, qui vivent seules, ou des personnes plus âgées qui vivent seules, je pense que c'est important qu'elles puissent activer les ressources disponibles. Donc il y a entre autres, donc vous l'avez, je l'ai évoqué en début de l'interview, au niveau de la ligne téléphonique du centre de prévention des suicides, de 0800 3123, hein, qui est une possibilité pour les personnes en souffrance d'avoir une écoute bienveillante qui va leur être offerte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais également téléaccueil, le numéro 107, hein, qui permet également d'avoir une écoute généraliste, celle-là, mais qui permet d'être en dialogue avec une personne à l'autre bout du fil. Il y a également des ressources qui sont intéressantes à nommer, comme le centre de prévention des violences familiales et conjugales, qui peuvent aussi, dans ces moments de confinement, être utiles pour pouvoir passer moins douloureusement peut-être un passage un peu critique dans les relations familiales ou conjugales. J'ai parlé également de la ligne SOS Parents qui vient d'être créée. Et donc le numéro de cette ligne, je regarde, je pense que c'est le 0471 414 633, et donc ça fonctionne 7 jours sur 7 de 8h à 20h, hein, donc 0471 414 633.
Oui, salut Gabriel, Chloé de Radio Panique, on est avec Kabiria là pour quelques questions. Tu peux nous dire où est-ce que tu travailles et qu'est-ce que tu y fais ?
Moi, je travaille dans l'entrepôt pour le groupe Colruyt. Donc, je travaille pas exactement pour le magasin Colruyt, mais pour les filiales OK et Bioplanète. Et moi, je prépare les commandes pour les magasins. Donc, je suis préparateur de commandes. Je fais des charrettes pour livrer au magasin. On a dû prendre des circonstances par rapport au coronavirus. Donc, on a deux équipes. Une équipe qui fait le matin, une équipe qui fait l'après-midi.
Quand tu dis l'après-midi, en fait, j'ai cru comprendre que tu avais un chiffre de 14h jusqu'à 22h, en fait.
Oui, c'est ça. Mm. Donc, quand on commence à 14h, on ne croise pas ceux qui ont terminé à 14h. Et même au niveau des pauses, toutes les pauses sont... Il y a beaucoup plus de pauses, vu que les gens doivent rester à distance, tout ça. Donc, il y a beaucoup de mise en place pour éviter la contagion, quoi. On ne croise pas les autres collègues et entre nous, on devrait être, même pour ceux qui fument dans le fumoir, ils ne peuvent pas être plus de 12, vu que c'est quand même un assez grand fumoir. Dans les vestiaires, c'est pareil, on ne peut pas être plus de 8. Les machines sont désinfectées après chaque utilisation. On ne doit pas porter des masques et tout ça, parce que sinon, pour travailler, c'est un peu assez dérangeant. Mais sinon, si des gens veulent porter des masques ou des gants, ils peuvent. Ben, je pense que nous, on subit beaucoup de ce que les gens font en magasin. Réellement, eux, ils voient ce qu'il y a en rayon, mais ils se disent pas que quelqu'un, avant, a préparé ça pour que ça arrive en magasin. Donc, ils vident les magasins, ils paniquent, alors que ça a des répercussions sur nous, notre ambiance de travail aussi. Vu qu'on a beaucoup plus de boulot, on a beaucoup plus de colis à faire, et ça met un certain rush dans la vie de tous les jours aussi, quoi.
Ouais.
Alors qu'eux sont confinés à la maison, pendant que nous, on doit quand même se lever à 4h du matin pour être...
Toi, tu es en Wallonie, hein, je crois.
Moi, je travaille sur Bruxelles.
Ah, ok.
À l'entrepôt de Lotte. Donc, oui, les magasins se vident très vite. Donc, il faut les remplir très vite aussi. Donc, par exemple, on doit faire des 250 000 colis en un chiffre de 8 heures. Mais s'il y a 50 personnes sur 200 qui ne sont pas là... Mais c'est beaucoup plus de travail pour nous qui allons travailler, quoi.
Parce que t'as pas mal de collègues qui sont absents.
Oui. Bah oui, il y a pas mal de collègues qui sont absents dû au fait que dans leur famille, quelqu'un a le coronavirus, hein, dans leur habitation. Donc, eux, ils ne peuvent plus venir travailler. Ils sont pas d'office positif, mais il y a plein de restrictions. Donc, nous, on est pas en sous-effectif, mais on a beaucoup de gens en moins. Et on a beaucoup plus de travail.
Et tu observes des produits en particulier qui disparaissent très vite du magasin ?
Ce qui est pâtes, tout ce qui est boîte de conserve, tout ce qui est eau, papier toilette, tout ça. Alors que c'est des choses que nous, on stocke, on a en grande quantité. Donc je pense que les gens paniquent pour rien, parce que tant que nous, on les a en stock, il n'y a rien de grave. C'est-à-dire qu'ils seront toujours encore au magasin, c'est juste qu'ils seront beaucoup plus lentement au magasin. Voilà, nous, le côté un peu chiant, c'est que on est tout en dessous, mais vu qu'il y a, le problème est chez nous aussi, donc il y a beaucoup de gens qui viennent pas travailler, il y a beaucoup plus de travail, donc on finit un peu surchargé, on finit plus tard, on commence plus tôt, on fait plus de jours, donc c'est pas facile pour tout le monde non plus.
Ça en prime pour la surcharge de travail, j'imagine.
Oui, tout le travail qui est en trop, qu'on n'a pas pu faire sur un shift, on doit le reporter, donc ça veut dire des samedis et des choses dans le genre. Nous, on a des obligations, vu que je fais ce travail, moi je me dis aussi, voilà, j'ai rien, je viens travailler. Mais il n'y a pas tout le monde qui pense comme ça, et même c'est vraiment physiquement épuisant et mentalement épuisant aussi, vu qu'on en parle partout, et c'est voilà.
On livre chez les gens, en fait, on leur dépose les caisses, les cuisines, et on passe récupérer les sacs de congélation avec les trucs qui sont soit cuisinés, soit coupés. Et après, on les donne aux associations, on distribue à Opération Thermos, à Pierre d'Angle, au Cuistot Solidaire, à la Porte du Lys et à Nabil à l'Armée du Salut.
Ok.
Voilà. Et il y a Refresh.
Du coup, ça fait des adresses qu'on fera plus tard, pas en vélo forcément, on avec la camionnette.
Bah, nous, on va déposer dans la cuisine, ils vont stocker. Tu vois, genre,
donc, on fait plus d'une rame de
sport et des vrais trois repas à Pierre d'Angle.
Ok. Super.
Entré dans mon corps, je ne veux plus dehors, c'est toi qui es la cause, c'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie, toi maladie, t'as juré pour la vie.
Je dirais dans les choses très importantes aussi auxquelles il s'agit d'être attentif, on voit combien même le gouvernement il invite le fait de conserver une activité sportive, alors soit à la maison pour ceux qui plus fragiles qui ne peuvent pas sortir, soit à l'extérieur en groupe de deux maximum, en conservant la distance de sécurité d'un mètre et demi entre des personnes. Mais on voit combien de conserver une activité physique va être aussi favorable, j'ai envie de dire, pour maintenir aussi un équilibre psychique. Alors, il y a des tas d'initiatives qui fleurissent, hein, la créativité humaine se manifeste à travers, entre autres, des coachs sportifs qui ne pouvant plus donner leurs cours de visu, vont proposer par Internet des cours gratuits pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes plus âgées, des cours de yoga, des cours de stretching, enfin, il y a différentes choses qui peuvent être proposées. Donc ça, c'est intéressant de les activer également. Le contact avec la nature, dans la mesure du possible aussi, je pense, les personnes qui peuvent, à proximité de chez eux, bénéficier d'un bois ou de promenade dans la nature, je pense aussi que c'est un facteur équilibrant dans ce moment de confinement. Et alors peut-être une dernière chose à évoquer qui peut être utile. Il y a plusieurs applications qu'on peut trouver sur Internet via les smartphones ou via les PC autour de soit de yoga, soit de cohérence cardiaque. Il y a une application qui s'appelle Respirelax Plus, donc ce qui est Respirelax Plus, qui peuvent être des aides, j'ai envie de dire, à pouvoir rétablir en soi un équilibre et un état intérieur qui soit paisible et plus serein. Donc voilà un florilège de propositions qui peuvent aider momentanément à passer cette cap un peu difficile.
Donc là, on se rend compte, par rapport à ce que vous dites, qu'on passe en fait beaucoup par le virtuel, les applications, les smartphones, les ordinateurs, et ça c'est tout à fait nouveau aussi, enfin nouveau, non, on passe beaucoup par là, mais ici peut-être que quand on n'est pas à la base hyper connecté, on le devient par la force des choses.
Et disons que d'abord on parle de télétravail, hein, je pense que c'est une des premières applications qui passe par là, et plusieurs entreprises, sont difficiles dans lesquelles je travaille. On n'est pas habitué à travailler en vidéoconférence avec nos patients, mais on est amené à le faire maintenant avec la crise. Donc je pense que dans ce cas-ci, on peut bien sûr critiquer le gestuel, mais dans ce cas-ci, je pense qu'il permet des utilisations qui sont des utilisations favorables dans un moment où justement les véritables contacts sont limités. Maintenant, quand ils sont possibles, ils sont intéressants à avoir, mais je pense que si les mesures de confinement sont amenées à être prolongées, voire durcies, comme dans certains pays, on n'aura plus trop l'occasion de pouvoir compter sur les contacts directs de visu. Donc oui, je pense que les technologies actuelles permettent quand même de se voir, de s'entendre. Et donc oui, elles ont une place certainement, je pense, dans ce moment de confinement. Sans oublier évidemment que intrafamilialement, quand les gens vivent sous le même toit, il y a plusieurs personnes sous le même toit, il faut évidemment privilégier les contacts entre les personnes et faire des activités ensemble, des jeux ensemble. Tout le monde ne vit pas en famille, certaines personnes vivent seules.
Oui, et tout le monde n'a pas non plus le matériel nécessaire pour se connecter.
Effectivement.
Oui,
donc effectivement, maintenant, ça ne sont pas les seules options possibles. Je pense que la plupart des gens ont quand même un téléphone, même pas un smartphone, mais je veux dire un téléphone fixe, s'il n'y a pas de smartphone, qui peut permettre également d'être en contact. Mais pour les personnes qui, effectivement, ne bénéficieraient d'aucun de ces moyens de communication, ça devient plus compliqué, effectivement.
Et alors, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent?
Alors, il y a des choses qui peuvent être dites, mais je dirais que le fait qu'on soit tous logés à la même enseigne dans ce confinement et dans cette pandémie, peut-être aider de se dire que c'est difficile, mais tout un chacun vit le même type d'expérience. Sera transitoire, forcément transitoire. Donc, le fait de savoir que ça a une fin, qu'on n'est pas le seul à être dans ce tunnel-là, je pense peut aider à se sentir moins isolé, même si on peut l'être, hein, chez soi physiquement isolé. Et je pense que quand on lit toute une série d'articles aujourd'hui, je lisais hier un article de Jacques Attali qui expliquait que finalement, à travers les grandes crises, il évoquait entre autres la peste, à l'époque qui avait décimé une bonne partie de l'Europe, qui avait amené à ce que les systèmes politiques soient transformés, soient réinventés. On peut espérer qu'à travers la crise, en fait, dans l'étymologie du mot crise dans différentes langues, il y a à la fois l'idée du danger et à la fois l'idée d'une opportunité. Alors, je pense qu'effectivement, ici, il y a un danger, on le voit bien, il y a des gens qui meurent. Mais par contre, il y a une opportunité, je pense, qu'on soit amené à repenser nos manières de vivre ensemble, nos manières de vivre tout court. Je dirais que les crises passent évidemment toujours par des moments, des passages étroits, des portées étroites, mais elles réouvrent des fois sur des espaces plus larges, et souvent sur des espaces plus larges, si en tout cas ces crises sont accompagnées d'une manière éclairée. On peut nourrir l'espoir qu'à travers ce qui est en train de se passer maintenant et qui est complètement inédit, quand Emmanuel Macron, président français, dit que c'est la plus grave crise depuis un siècle que la France a connue, et ça devient une ampleur quand même de ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, je nourris l'espoir, et j'espère qu'on pourra collectivement nourrir l'espoir que notre façon de vivre un peu folle, en déséquilibrant tellement de choses au niveau écologique, au niveau psychique, on voit bien combien les burn-out aujourd'hui explosent. Hein. Il y a des chiffres récents qui montrent qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui sont sous la mutuelle suite à un burn-out qu'au chômage. Donc le burn-out coûte plus cher que les personnes au chômage. Donc tout ça indique qu'on est dans un rythme qui est effréné, qui déséquilibre toute une série de facteurs qui maintenant, je pense, vont devoir être revus. Je l'espère qu'ils vont être revus. J'espère qu'il y a cette sagesse-là qui émergera suite à la crise. Donc voilà, peut-être le mot de la fin et
Radio
ville barricadée de Wuhan, un coursier charge son scooter à l'aube. Sur son t-shirt bleu, un hippopotame, M. Zhang sillonne les rues désolées. Et les gens sont plus gentils avec ce coursier snobé. Comme le dit l'adage, les maux de l'homme sont doux quand la mort est proche. Et l'air aujourd'hui est vif, et la ville est silencieuse, et pendant que les gens font leur nid, le soleil brille dehors. La flotte d'Ali Baba garde les artères du capitalisme et de l'avant pour satisfaire les besoins de la ville paniquée. Je pensais que la ville était trop bruyante, une ville sans gentillerie, c'est ennuyeux. Maintenant, la flotte parcourt les rues pendant que la méga-ville chinoise dort. Une femme désespérée plaide : pouvez-vous monter les courses de ma mère ? Quand la vieille femme ouvre la porte, M. Zhang se précipite vers l'ascenseur. Le bouton est un vecteur. Le bouton était enfoncé, avec un doigt seulement, il protège le reste. Prends soin de mes garçons, prends soin de mon père, prends soin de ma femme, pendant que j'échange ma santé contre un dollar. La nuit, je deviens scribe, j'écris dans un journal en lambeaux à mon chevet, sur les deux vieux qui s'en sortent bien, en jouant une partie d'échecs à l'extérieur. Et l'air aujourd'hui est vif, et la ville est silencieuse, et pendant que les gens font leur nid, le soleil brille dehors. Et les gens sont plus gentils avec le coursier snobé, comme le dit l'adage, les mots de l'homme sont doux quand la mort est proche.
Et qui termine par un M. Il fait beau, c'est dimanche. Je panique, je pandémique. On vous embrasse, prenez soin de vous.